Alors aujourd'hui, Raph, tu continues ton exploitation pour ton. Il manquait plus que ça. Tu continues ton exploration. Ton exploration pour nos auditeurs des maisons d'édition de théâtre. Et ce soir, ce sont les éditions Quartet, basées à Perreux-sur-Marne, qui sont à l'honneur.
Et oui, ils viennent de republier une pièce très intéressante, donc Mayday, en janvier 2017. Une pièce de Dorothée Zumstein, qui était déjà parue en 2009 chez le même éditeur, sous le titre de Big Blue Eyes.
Oui, et du coup, la réédition de la pièce correspond à l'actualité scénique, puisqu'elle a été créée le 1er février au CDN de Rouen par la compagnie Lin Quarto, dans une mise en scène de Julie Duclos. Nous en parlons donc, puisqu'après son passage à la Colline à Paris entre le 23 février et le 17 mars, le spectacle fait une escale au Célestin dans sa tournée entre le 21 et le 25 mars de cette année. Aujourd'hui, donc, Raph, tu nous parles plus particulièrement de l'univers théâtral de Dorothée Zumstein.
Et oui, et en premier lieu, il est important de souligner que la pièce est inspirée d'un fait divers plutôt sordide. Le personnage se nomme dans la pièce Mary Burns, et dans la réalité, il s'agit de Mary Bell.
Oui, la fameuse affaire Mary Bell, l'histoire d'une jeune fille de 10 ans qui a étranglé deux jeunes garçons en 1968 à Scotswood, près de Newcastle, en Angleterre. Après sa sortie de prison et 17 ans d'une vie terrible où elle doit se cacher et changer d'identité, elle décide à 40 ans de se confier à une journaliste, la même qui avait couvert l'affaire à l'époque où elle était enfant.
Et oui, la criminalité fascine évidemment le théâtre depuis longtemps, qu'on pense aux Bonnes de Genet ou encore à Alberto Zucco de Coltès. Mais dans ce cas présent, c'est l'histoire d'une enfant criminelle qui va prévaloir. Donc presque à la manière du naturalisme chez Zola dans le traitement de l'hérédité, à travers l'histoire de l'enfant, toute l'histoire d'une génération va pouvoir émerger pour le lecteur. Celle de Marie, autrement appelée May dans son enfance, et Kate au moment de la pièce où elle a 40 ans et qu'elle se confie aux journalistes. Les autres personnages sont Betty, sa mère, et Alice McKenzie, sa grand-mère.
Du coup, quelle est l'histoire de cette jeune May, histoire qui puisse peut-être éclairer ses actes criminels?
Alors, je ne vais évidemment pas décrire toute la substance du passé de May, mais on repère quand même différents basculements au cours de la vie des trois femmes qui font que, de toute manière, quelque chose s'est brisé en elle. Les basculements sont toujours montrés d'une manière teintée de mystère et d'énigme. L'écriture, en cela, a vraiment quelque chose de proche de William Faulkner dans Le Bruit et la Fureur, par exemple. Proche dans la manière de superposer les différentes voix et d'éclater toutes les frontières temporelles. Mais la pièce contient une poétique assez radicale. Il y a une manière de raconter cette histoire horrible à travers les souvenirs de May, à travers le personnage de Marie à 10 ans et de Kate à 40 ans. Et même de tout ce dont elle ne peut se souvenir, dont le récit est donc pris en charge par sa mère et sa grand-mère.
Et on trouve dans une didascalie cette très belle métaphore de May qui cherche des trésors parmi les débris.
Et oui, cette histoire se raconte véritablement sous différents plans, au sens cinématographique, et de chaque passage, à travers chaque comparution des femmes, naît de véritables images poétiques, des images qui avancent dans notre imaginaire, tandis que reculent la peur, les préjugés, tout ce qui peut en nous rédimer le criminel.
D'un point de vue purement littéraire, du coup, qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette pièce, Raph ?
Alors la pièce est une sorte de composition qui fait surgir, ressurgir et redonne une épaisseur à des événements fondateurs du trouble et germes du crime. Pourtant, ce sont des voix douces, imprégnées d'une sorte de malédiction irrémédiable et indicible. Rien n'est affirmé. Ce n'est pas simplement l'histoire de déconvenus et d'actes proscrits et intériorisés sans jamais se révéler. C'est peut-être surtout l'histoire de nos silences les plus profonds, de la détresse qui parfois nous prend et qui, quand on a connu ou vu ou vécu des faits prohibés, ne nous donne pas la possibilité effective d'en parler et se traduit dans nos gestes les plus fous comme les plus réprimables. Je parle ici évidemment de viol ou quand on est victime d'actes pédophiles. Bien plus, d'après l'histoire même de Mary Bell, le vrai fait divers, ce n'est pas pour se justifier qu'elle va raconter son histoire dans un livre, parce qu'elle l'affirme, ce qu'elle a fait étant enfant est absolument impardonnable.
Alors là,
je vous laisse lire un extrait.
C'est pas pour moi que je fais ça, c'est pas pour me faire pardonner, pour moi il est trop tard, je suis impardonnable.
Et donc, une fois qu'on a évincé ce préjugé néo-chrétien du pardon, la forme littéraire se noue vraiment autour d'un souffle presque rythmé en vers, comme un poème dont l'essence ne saurait s'épuiser avant que les corps ne disparaissent dans les lignes infinies de la mémoire, des corps qui sont présents à eux-mêmes comme des spectres à qui on donne pour quelques mots, quelques phrases, la possibilité de parler, de communiquer avec les vivants et qui s'effacent aussitôt qu'ils ont accompli leur parole, une parole pour dire et non pour juger. Pour terminer, on peut vraiment dire que Dorothée Zumstein, dans une veine réaliste empreinte d'une lucidité mystique, regarde en face les terreurs de la vie. Ainsi, ce n'est pas la criminelle qu'elle raconte, mais la femme et l'enfant avilis, retranchés dans leurs limites et leurs impuissances. Dans cette pièce, il n'y a plus de larmes dans les yeux, il n'y a plus que des flammes.
Et comme le dirait Marie en conclusion, car elle lit toujours soigneusement les relances, c'est à lire absolument donc. Et nous terminons cet amplifié avec... avec une intervention d'un dernier chroniqueur.
Et quel chroniqueur
Eh bien, vous le saurez après un petit extrait sonore.